turns to tears. Life's mystery appears like a love supreme, supreme, supreme. A love supreme, supreme, supreme.
A une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
Brazzaville, il est 6h08 à Téhéran.
RFI Matin.
Andréane Mélard.
Et Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Et bonjour Andréane, bonjour à tous.
Le premier tour des municipales est passé en France.
Oui, c'était hier. Reste le deuxième tour dimanche prochain. Mais avant ça, les tractations en coulisses pour tenter de former des alliances. On votait hier aussi au Congo-Brazzaville. Élection présidentielle cette fois. Pas encore de résultats. Reportage à suivre. On va parler de la guerre en Iran et de la pression de Donald Trump à ses alliés, et pas que d'ailleurs, pour l'aider à mettre fin au blocage du détroit d'Ormuz. L'actualité, c'est aussi le premier procès en France concernant des faits de génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité religieuse yézidi en Syrie. Et puis les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina qui se sont achevés hier soir.
C'est un scrutin réputé comme étant celui qui intéresse le plus les Français.
Et pourtant, 56% de participation hier pour le premier tour des élections municipales. C'est un petit peu mieux, c'est vrai, qu'en 2020. Il faut dire qu'à l'époque, le Covid-19 s'était invité dans la campagne et ça n'avait pas aidé. C'est beaucoup moins, par contre, qu'en 2014. Alors hier soir, à l'annonce des premiers résultats, eh bien, de nombreux responsables politiques ont appelé les électeurs à se mobiliser dimanche prochain pour le second tour. D'ici là, je le disais, c'est le début des négociations dans les communes où aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages. C'est le cas dans une grande partie du pays, à Paris notamment, où Emmanuel Grégoire est arrivé en tête hier soir, assez largement d'ailleurs, à la faveur d'une alliance socialiste écologiste communiste, entre 35 et 38% des voix. Quant à droite, Rachida Dati est à environ 25%. Reportage au QG d'Emmanuel Grégoire, Charlotte Urien-Tomaca.
C'était le scrutin parmi les plus attendus, mais aussi celui sur lequel il y a le plus de suspense. Paris basculera-t-elle à droite ? Car si Emmanuel Grégoire est arrivé en tête de ce premier tour, les jeux ne sont pas faits.
Vous avez voté pour la gauche qui peut gagner, vous avez voté pour la gauche qui veut gagner. Mais rien n'est fait. Dimanche prochain, la droite et l'extrême droite peuvent l'emporter à Paris.
Si le candidat de gauche a fait campagne sur une non-alliance avec LFI, les militants PS présents lors de cette soirée électorale estiment qu'il faut tendre la main sans fusionner les listes.
À tous ceux qui se reconnaissent dans le projet d'Emmanuel Grégoire et des écologistes, et leur dire que s'ils veulent garder Paris à gauche, c'est surtout le meilleur choix à faire.
Car l'inquiétude est là en fonction de la configuration du second tour. Sophia Chikirou, si elle se maintient, peut diviser l'électorat de gauche et favoriser la droite. Des militants LFI ont même improvisé une manifestation en marge de la soirée électorale du candidat de gauche, appelant au rassemblement.
Ne nous trahissez pas, unissez-vous.
Le duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati sera donc arbitré par l'extrême droite, le centre droit et l'extrême gauche dimanche prochain.
Et on verra effectivement la position qu'adoptera l'insoumise Sophia Chikirou, troisième de ce scrutin à Paris, en position de se maintenir au second tour, et qui d'ailleurs pendant la campagne avait dit que c'est ce qu'elle ferait, se maintenir, si Emmanuel Grégoire refusait une fusion des listes. Elle qualifiait également Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon et Renaissance, à qui Rachida Dati a d'ores et déjà tendu la main, lui proposant une liste d'union. Et on apprend à l'instant que Sarah Knafo, du parti d'extrême droite Reconquête, est qualifiée elle aussi pour le second tour. C'était pas sûr tout au long de la soirée, elle frôlait les 10%, elle les a visiblement dépassés, 10% le seuil obligatoire, donc pour se qualifier au second tour. Pendant ce temps, à Marseille, on se dirige vers une quadrangulaire, c'est-à-dire quatre listes pour le second tour. Le maire sortant de gauche, Benoît Payan, est arrivé légèrement en tête devant le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio. Derrière eux, la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, mais aussi le député LFI, Sébastien Delogu, avec qui Benoît Payan a d'ores et déjà prévenu qu'il ne comptait pas s'allier. La surprise de la soirée, c'est peut-être à Lyon qu'elle se trouve. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet a fait mentir les sondages qui le donnaient dépassé lors de ce premier tour. Eh bien, il est pourtant au-delà de 37% des suffrages, juste devant son adversaire Jean-Michel Aulas, ex-président de l'Olympique lyonnais, soutenu par la droite et le centre-droit. Il distance tous les deux l'insoumise Anaïs Belouassa Chérifi. Elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle était prête à discuter d'une fusion technique de sa liste avec celle de Grégory Doucet.
Oui, c'est un peu à ça que vont ressembler les prochains jours, Gaëtan, dans une grande partie des communes, discuter d'éventuelles alliances.
Et il ne faut pas traîner, hein. Tout le monde a jusqu'à demain, mardi, 18h, heure de Paris, pour déposer les listes définitives en préfecture. Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, dit tendre la main aux listes de droite sincères. Main tendue aussi par le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, cette fois aux autres listes de gauche, partout, dit-il, où la droite et l'extrême droite peuvent l'emporter. Sauf que le chef des socialistes, Olivier Faure, a d'ores et déjà dit qu'il n'y aurait pas d'accord national entre les deux partis. Le secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, a lui déjà aussi affiché sa position.
Ce soir, nous voyons aussi une progression inédite de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans cette élection municipale. Et est-ce que la gauche républicaine sera très claire vis-à-vis de l'extrême gauche de la France Insoumise ? Malheureusement, de premières déclarations permettent d'en douter. Est-ce que la droite républicaine sera très claire vis-à-vis de l'extrême droite du Rassemblement National, de M. Ciotti ou de M. Zemmour ? Malheureusement, là aussi, des déclarations permettent d'en douter. Pour ce qui est de Renaissance, nous sommes et resterons d'une clarté absolue. Nous ne participerons à aucune alliance directe ou indirecte, ni avec l'extrême gauche de la France Insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement National, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti.
Le secrétaire général du parti Renaissance et ex-premier ministre Gabriel Attal. Les résultats de ce premier tour des municipales en France, on continue à les décrypter, à les analyser dans nos journaux, bien sûr, mais aussi lors d'une édition spéciale.
Oui, Gaëtan, rendez-vous juste après le journal de 7h temps universel. On va analyser ces résultats, cette participation aussi avec Valérie Régas, chef du service politique d'RFI, et le politologue Dorian Dreuil. On votait hier aussi au Congo-Brazzaville.
Élection présidentielle, cette fois, 7 candidats en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, qui brigue un 5e mandat consécutif. Un scrutin qu'une partie de l'opposition et de la société civile considérait comme joué d'avance. Alors, on n'a pas encore les résultats. Le vote s'est passé dans le calme, au moins dans la capitale, parce que pour ce qui est du reste du pays, on n'a pas vraiment encore d'informations, les communications ayant été coupées une grande partie de la journée. En tout cas, hier, en sillonnant différents quartiers de Brazzaville, notre envoyé spécial Amélie Tulé a pu recueillir les impressions des habitants. Reportage.
Dans un quartier réputé favorable au président candidat, ces deux hommes viennent tout juste de voter.
Le vote se passe bien. J'ai réalisé ce qui est mon devoir. Je suis en train de rentrer. C'est vraiment dans le calme.
C'est ma première fois de voter. Comme une obligation. En tant que citoyen, je dois voter pour choisir le président qui me convient.
Ces deux autres, eux, s'apprêtent à le faire tout en reconnaissant ne pas avoir confiance dans le processus.
Nous votons quand même. Mais si ce droit n'est pas respecté, ça nous décourage.
Vous faites le constat, non ? Il n'y a pas trop de gens ici. Non. Ça veut dire que le pays va mal. Les gens n'ont plus d'espoir. Qu'ils viennent voter ou pas, ils savent déjà qu'il n'y aura pas de changement, c'est ça.
Dans des quartiers réputés frondeurs, ces habitants refusent carrément de participer au scrutin.
Même si on vote pas, même si nous, là, même si on ne part pas voter, même si toute la population du pays là ne part pas voter, le monsieur est déjà top.
Candidat unique. Les autres, là, sont des mascarades. Moi, ça m'intéresse pas.
Quel que soit, même si on vote, il va toujours gagner. On laisse tout, hein. Il n'a qu'à faire comme il veut.
Toute la journée ce dimanche, les habitants de Brazzaville n'ont pas pu communiquer par téléphone ou consulter Internet car le réseau a été coupé. Amélie Tulé, Brazzaville, RFI.
Les États-Unis et l'Iran discutent, affirme Donald Trump.
Mais pas de quoi penser que la fin de la guerre est certaine. Les Iraniens n'en sont plus très loin, mais pas tout à fait près non plus, dit le président américain. Un petit peu plus de deux semaines maintenant, après le début des frappes de son pays et d'Israël. Donald Trump, qui dans une interview accordée au Financial Times, réclame l'aide de plusieurs pays pour débloquer le détroit d'Ormuz. Ce point de passage stratégique dont on vous parle beaucoup, bloqué par l'Iran et par où transite notamment 20% du trafic mondial de pétrole. Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas, dit Donald Trump, qui s'adresse à ses alliés, mais aussi à la Chine. En tout cas, le Japon, de son côté, a d'ores et déjà dit qu'il n'envisageait pas d'opération de sécurité maritime pour l'instant dans ce détroit. Même chose d'ailleurs pour l'Australie.
L'Australie, où trois nouvelles footballeuses de l'équipe iranienne retirent à leur tour leur demande d'asile dans le pays.
Et ça fait 6 au total, plus un membre du staff. Alors, pour rappel, les joueuses avaient refusé de chanter l'hymne national iranien lors d'un match 2 jours après le début de la guerre. Ça n'avait pas plu du tout au régime d'Ebola, Hugo Duport.
En quelques jours seulement, plusieurs membres de la délégation iranienne en Australie ont fait volte-face. Ils ont annoncé leur retour en Iran. L'opposition au régime accuse Téhéran de faire pression sur les joueuses, d'abord en menaçant de saisir leurs biens. Shahin Gobadi est membre du Conseil national de la résistance iranienne en exil.
Avant qu'ils sortent du territoire iranien, très souvent, le gouvernement prend les biens des ressortissants en caution. Ils doivent céder leur maison ou tous leurs biens de valeur. C'est une sorte de carotte. Ils sont obligés de rentrer ou le régime confisque tout.
Ensuite, si le régime craint que son ressortissant ne revienne pas au pays, il n'hésite pas à s'en prendre à sa famille.
Ils prennent des membres de la famille en otage en Iran. Par exemple, le mari, la femme ou même les enfants, les parents aussi. Ils les menacent, les torturent et souvent, ils les forcent à appeler leurs proches au téléphone pour leur demander de revenir et de ne surtout pas fuir.
Une pression psychologique énorme, pensée et organisée pour réduire au silence toute voix dissidente.
Hugo Duport et les Émirats Arabes Unis annoncent ce matin intercepter des missiles et des drones venus d'Iran. Le trafic aérien est lui suspendu ce matin à l'aéroport de Dubaï.
RFI 6h10 à Paris, 2 procès à la une de l'actualité française.
Oui, débutent tous les deux ce lundi. Procès en appel pour l'ex-président Nicolas Sarkozy, accusé de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Ça lui avait valu 5 ans de prison en première instance. Il avait d'ailleurs été emprisonné pendant 20 jours. Et puis le début aussi du premier procès en France concernant des faits de génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité religieuse yazidi en Syrie. Et c'est un procès doublement historique puisque c'est aussi la première fois qu'un ressortissant français est poursuivi pour de tels crimes. Il s'appelle Sabri Yesid et il est présumé mort. Alors il sera jugé par défaut. Les explications de Laura Martel.
Demi-frère par alliance du terroriste Mohamed Merah, l'auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012, proche des frères Klein, les voix des revendications des attentats du 13 novembre 2015, Sabri Yesid est une figure importante du djihadisme français. Il aurait été tué en Syrie, où il avait rejoint les rangs du groupe État islamique en 2018, mais faute de certitude, il sera jugé en son absence. Sabri Yesid est accusé d'avoir adhéré et directement participé à la politique génocidaire de l'EI à l'encontre de la minorité yézidi, notamment en achetant des femmes qu'ils réduisaient en esclaves sexuels et domestiques et en les soumettant, ainsi que leurs enfants, à différentes tortures et privations constitutives de crimes contre l'humanité. 3 femmes, dont 2 témoigneront à la barre, et leurs 8 enfants seront notamment partis civils. Jusqu'à présent, pointe leur avocate Clémence Bechtart, les djihadistes français n'avaient été jugés que pour des infractions terroristes. Ce procès va donc permettre de donner une autre lecture des crimes de l'EI en mettant en lumière l'ampleur des exactions commises contre les yézidis. Estime-t-elle. Si ce procès est inédit en France, des membres de l'EI ont déjà été condamnés pour le génocide des yézidis en Europe, la première fois en Allemagne en 2021, puis l'an dernier en Belgique et en Suède.
Et le procès doit se tenir jusqu'à vendredi.
238 médailles plus tard, les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina se sont achevés hier soir.
Avec une cérémonie de clôture dans le stade de curling de Cortina, au tableau des médailles, la Chine loin devant, suivie par les États-Unis et la Russie. La France, elle, termine 6e avec 12 médailles. 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze, comme ça pas de jaloux, c'est moins qu'espéré quand même, Christophe Dirémian.
18 médailles espérées, finalement pas plus qu'à Pékin et même moins de titres qu'il y a 4 ans.
les responsables tricolores n'ont pas vraiment le sourire. Si le paranordique et le parasnowboard ont été des points faibles, Yann Kuchera, le manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport, avoue aussi un manque d'anticipation du potentiel des autres nations.
On avait une visibilité un peu fragile sur cette concurrence internationale, beaucoup plus dense que ce qui a existé parce que les Chinois ne sortent pas beaucoup sur les compétitions internationales. Les Russes ou les Biélorusses, on ne les avait pas vraiment observés sur les Coupes du Monde traditionnelles. Pour autant, on reste compétitif en étant au 6e rang mondial.
Parmi les motifs de satisfaction, les 4 médailles d'Aurélie Richard en ski alpin et le sacre de Karl Tabouret en ski de fond, deux novices performants, exemple d'une relève qui doit s'élargir et donner envie pour Marie-Émilie Le Fur, la présidente du Comité paralympique français.
Un des premiers leviers, c'est de continuer à susciter la demande de la part des personnes en situation de handicap. Il y a quand même un sujet d'autocensure des personnes qui estiment que le sport, ce n'est pas pour elles. Donc on a ce travail de pédagogie à faire. On doit aller en fait au plus proche du parcours de vie de ces personnes pour inciter la volonté de pratique.
Féminiser l'élite et investir davantage les catégories assis et déficients visuels, deux autres priorités du programme de détection spécifique au sport d'hiver lancé prochainement pour gonfler les rangs des talents prometteurs des Jeux 2030. Christophe Diremzian, Cortina, RFI.
Un petit mot de cinéma, puisqu'une autre cérémonie avait lieu hier soir, celle des Oscars. Une bataille après l'autre, sacré meilleur film, et Paul Thomas Anderson, sacré meilleur réalisateur. L'Irlandaise Jessie Buckley a, elle, remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Hamnet. Et puis le meilleur acteur, c'est Michael B. Jordan, à l'affiche de Sinners.
Et on sera en ligne avec Loïc Piala à Los Angeles dans le journal de 7h pour faire le point un peu sur le palmarès de ces Oscars. Merci Gaëtan Plenet. Il est 6h14, le début d'un nouveau tour du monde de l'actualité qui nous emmènera bien sûr ce matin au Moyen-Orient, en Iran notamment. On nous appellera Siavosh Ghazi à 7h. Au Liban aussi, Paul Ralifé à 8h nous dira quelle est la situation à Beyrouth ce matin. Et puis, vous suivez bien sûr notre live dédié sur RFI.fr. Ce matin, on revient aussi évidemment sur la présidentielle d'hier au Congo-Brazzaville. Les résultats du premier tour des municipales en France et un entre-deux-tours tendu qui s'annonce. Édition spéciale à suivre sur notre antenne entre 8h10 et 8h30. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À 7h20, Arnaud, vous parlez avec votre invité d'un procès qui s'ouvre en France aujourd'hui. On en parlait dans le journal. Procès inédit, le tout premier en France concernant des...
J'aime rêver vers la grâce matinée, mais mon voisin ne cesse de me reprocher cette paresse. La vie appartient à celui qui se lève tôt, répète le voisin souvent. Parole d'ignorance, c'est ce que je pense. Rien ne vaut le sommeil du matin. Un sommier tranquille, loin des usines et du gratin. À tête de l'oreiller, champion du monde de la nuit. Rêve d'une journée sans descendre de lit. Voisin enthousiasmé vient sonner à ma porte. Le genre de mec insiste avec une énergie trop forte. Quoi? Que se passe-t-il? Est-ce la fin du monde? Mais non, c'est le voisin avec un billet dans les mains. Il me dit écoute-moi bien. Ce matin en allant travailler très tôt, j'ai trouvé sur la route un billet de 50€. Tu vois bien qu'ils ont raison à la télé. La fortune appartient à celui qui se lève tôt. Mon cher voisin, si tu prenais la peine d'éteindre ta télé, travailler moins pour penser plus, tu te rendrais compte. Et ça en vaut la peine qu'en jouant avec les mots. La vie appartient à celui qui se rêve trop.
Holy shit, C-sex, drogue et jolie fille. Toujours rien à dire sur ce maudit beat. Holy flip, plus je modifie, plus je codifie et plus ça t'horripile. J'ai pas de domicile, je zone ici, j'homicide de façon prolifique. Je te chosifie puis je te pose ici. Wapi, wamo dans ta grossifie. Je dose easy et je m'en glorifie. Médecine holistique pour ego positif. Juste au midi, je t'en obligé. Fiston prodigue et prodigieux. Science cognitive sous spiritueux. Translassique sur son sirupeux. Kika du peu, excusez du peu. Vas-y, Raymond, remets-nous du feu. On est feu croisé, on est feu roulant. On est feu volet, ils sont vieux croulants. J'suis dans cette pute en m'apesanteur. Bref, j'vais surtout pas m'apesantir. J'suis maléfique, Belzébuth. C'est magnifique comme je baisse ces putes. Porte à voir dans le gros bullshit. Gros bullshit. On s'en bat la rage de la gros bullshit. Gros bullshit. J'suis au bout du boulot dans le lyriciste. Chômage technique, j'fais des clics. J'fais des clics. J'persiste, essaye. J'suis même pas sûr que j'existe. Et merde, on n'est pas sur la même piste. Et merde, tu m'aimes pas sur ta guest list. Et ouais.
On a beaucoup d'inconvénients, peu d'avantages. Parlons cash, nous en convenons, tout ça n'est pas rentable. Là, faudrait que j'lâche une phase de merde à propos d'accord parental. Mais puisqu'on s'en tape, nous n'en parlerons pas. Gros, c'est par facilité, vulgaire par habitude. Pourquoi ce langage et pourquoi cette attitude? Que des gamins attardés pour avaler ma mixture. C'est même plus de la saleté, c'est de la moisissure. J'écris sous influence, MC au bout du rouleau. Faudrait sauver les apparences, mais j'ai pas le goût du boulot. Donc je recycle des lyrics usagés. Tu le savais, OSAV du RAP, ils m'ont dit dégagez. J'ai connu moins les belles victoires que de sales défaites. Au sommet de ma gloire, je fais la tournée des sales défaites. Et vu qu'on vit à l'ère de la médiocrité, je mérite qu'on mérite une statue pour cette rime pétée. Je pourrais le dire autrement, en faire tout un roman, mais faut que je reste succinct. Franchement c'est louche, regarde les choses en face. Même avec les moches j'ai aucun succès. J'ai que demandé un featuring comme on m'en dit des pièces. Mais on va dire au public que tu m'invites en guest. Même dans les faits divers j'ai mauvaise presse. Je suis le rappeur le plus fauché que tu connaisses.
J'persiste, essaye. J'suis même pas sûr que j'existe. Et merde, on n'est pas sur la même piste. Et merde, j'suis même pas sur ta guest list. We'll be right back.
respirez à fond.
Principe actif, 102.4 FM.